Chapitre 8. Le lendemain, dans la matinée, Boulanger reçut de son collègue Fromont les premiers résultats des analyses. L'examen des microparticules recueillies sur le plancher du salon était décevant. Il n'y avait rien qui semblât provenir, par exemple, des habits de l'assassin. Même des illusions avec les empreintes. Alors que Boulanger attendait beaucoup de l'examen du badge, on n'y révéla que des empreintes de Barbara, ce qui laissait supposer qu'elle avait dû arracher le badge en se défendant. Au moins était-on sûr maintenant que le badge était porté par l'assassin quand il était entré dans la pièce et non déposé après coup par l'un des témoins. Quant aux empreintes sur la poignée de porte du salon, elles étaient trop nombreuses et trop brouillées pour être exploitables. Bien que la porte fût entr'ouverte, les premiers invités arrivés sur les lieux avaient eu tendance à poser la main sur la poignée en entrant. Une des dernières, et donc une des plus nettes, appartenait au substitut du procureur. Le rapport d'autopsie qui arriva dans la journée confirma, en des termes plus précis et plus techniques, ce que le docteur Fruleux avait dit à Chou, à savoir qu'il s'agissait d'un unique coup de poignard qui avait atteint le cœur. D'après la largeur et la profondeur de la blessure mortelle, le médecin légiste penchait plus pour un couteau à cran d'arrêt que pour un couteau de boucher. À la vérité, ce n'était pas une révélation. On pouvait s'attendre à ce que le meurtrier, amené à déambuler dans la garden party, eût un couteau discret, à l'arme rentrante. Quant au fait qu'un seul coup avait suffi, on pouvait invoquer, au choix, le hasard ou l'habileté. Bref, cela ne menait à rien de significatif. La bonne surprise provint de la messagerie électronique de Barbara. La veille, un policier de la brigade chargée de la répression des crimes et délits informatiques s'était rendu à la Villa Louise, où il avait rapidement forcé l'accès au courrier de la jeune femme. Celle-ci ne devait pas supprimer souvent ses mails, car les plus anciens remontaient à près de 2 ans. Parmi les nombreux correspondants de la jeune femme, un retint particulièrement l'attention des enquêteurs. Il s'agissait d'un certain Damien qui, en l'espace de 4 mois, de fin mai à septembre, avait envoyé un nombre incalculable de messages, souvent plusieurs par jour, dont l'examen montrait sans aucune ambiguïté la passion dévorante qu'il avait conçue pour Barbara. Les réponses de celle-ci, enthousiaste au début, devenaient rapidement plus courtes, plus espacées et surtout plus froides, tout en restant courtoises. L'enquête auprès du fournisseur d'accès de celui qui avait pris le surnom de Tristan pour son adresse électronique révéla l'identité précise du correspondant enflammé de Barbara. Damien Restoux, 26 ans, étudiant, qui résidait 126 boulevard Victor Hugo à Lille. Avant d'aller lui-même poser quelques questions au jeune homme, Boulanger alla rendre compte de l'état de l'enquête, interrogatoire et recherche, au commissaire Zunquin. Celui-ci, un petit homme au visage parcheminé et à la belle chevelure blanche, qui arborait en permanence un sourire malicieux, écoutant en silence son subordonné débiter d'une voix morne les maigres résultats donnés par les analyses, puis entreprit de lui remonter le moral. « Allons, Boulanger, ne faites pas cette tête sinistre. Ce n'est pas la première fois que nous manquons d'indices. Moi, je vous conseille de reprendre les interrogatoires des personnes présentes, notamment celles qui n'ont pas d'alibi. Il y a certainement quelqu'un qui ment et qui finira par se trahir. Et puis, élargissez le champ des investigations. Allez voir ce Damien Restoux. Fouillez le passé de Barbara. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'un hasard, que le meurtrier devait la connaître. Inévitablement, nous devrions retrouver la trace dans la vie de la victime. Les individus, Boulanger, concentrez-vous sur les individus. Il n'y a que cela de vrai. » Le commandant, malgré son petit moral, ne put s'empêcher de sourire à son tour. Les hommes, plus que les indices matériels, c'était le leitmotiv du commissaire Zunquin qui, comme certains de ses collègues de la vieille génération, se méfiait des techniques ultramodernes développées dans les laboratoires de la police scientifique. Boulanger ne pensait pas qu'il eût raison, mais l'optimisme et le volontarisme de son supérieur l'avaient ragaillardi, et en regagnant son bureau, il sentit monter en lui un flux d'énergie. Après un rapide briefing avec son équipe, il partit avec le Mailleux rendre visite à Damien Restoux. Le 126 boulevard Victor Hugo était une grande bâtisse de 4 étages qui avait été transformée en appartement. La peinture de la façade, jadis blanche, s'écaillait lamentablement. Les tuiles de la toiture, couvertes de mousse, montraient des traces d'humidité suspecte, et les tags qui recouvraient les murs du rez-de-chaussée accentuaient l'aspect sinistre de l'ensemble. Enjambant des sacs poubelles qui s'entassaient devant l'entrée et dont certains avaient été crevés par des chiens, Boulanger s'approcha des boutons de sonnette. La moitié au moins ne comportait aucun nom. Sur quelques-uns, on avait inséré un bout de carte de visite ou un simple bout de papier avec un nom écrit au stylo. Il n'y avait pas de restous. La porte d'entrée était entrebâillée. Les deux hommes s'introduisirent dans un couloir étroit qui sentait l'urine de chat. Il y faisait sombre malgré la lumière qui entrait par la porte laissée ouverte. Sur l'une des boîtes aux lettres accrochées au mur de gauche, ils découvrirent le nom de Restou, écrit au stylo à même le métal. Il n'y avait aucune mention d'étage, si bien que, s'étant engagés dans un escalier raide dont les marches semblaient à bout de souffle tant elles craquaient, ils durent s'arrêter sur chaque palier pour vérifier les noms sur les sonnettes. Damien Restou logeait au troisième étage. Il fallut plusieurs coups de sonnette prolongés pour que la porte s'ouvre sur un homme très grand, dont la chevelure hirsute, la chemise froissée et le teint brouillé pouvaient laisser croire qu'on l'avait réveillé. Tandis qu'il clignait des yeux, l'air hagard, le mailleux remarqua encore son air juvénile malgré sa barbe, les taches de gras sur le jean ainsi que l'extrême maigreur de l'individu. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? » demanda-t-il d'une voix plus surprise que contrariée. Quand Boulanger eut présenté le mailleux lui-même, tout en montrant sa carte de police, le jeune homme rougit et se troubla. « Entrez, je vous en prie, » dit-il en bredouillant. Il les précéda dans une pièce assez vaste qui tenait lieu de salle à manger, de salon et même de chambre, puisqu'un lit défait occupait tout un coin, et leur proposa deux fauteuils dépareillés, mais également défoncés, tandis que lui-même dut débarrasser une chaise d'une pile de livres pour s'asseoir. Comme il restait sans rien dire, tendu et inquiet, Boulanger prit la parole. « Vous êtes bien Damien Restoux, étudiant en histoire. »« Oui, c'est moi, » dit-il d'une voix où perçait l'impatience. « Monsieur Restoux, connaissez-vous Barbara Roussel? » Le mailleux qui avait sorti son calepin le vit hésiter. « Non, pas personnellement. Pourtant le nom me dit quelque chose. S'agit-il de cette personne qui a été assassinée dimanche dernier? « Comme il ment mal, » pensa Boulanger qui, l'espace d'un instant, eut pitié du jeune homme tout rouge qui se tortillait sur sa chaise. « Précisément. Je vois que vous vous tenez au courant de l'actualité. Vous êtes bien certain de ne pas la connaître. « Non, je viens de vous le dire. « Comment se fait-il alors que votre nom figure sur un nombre élevé de mails qu'on a retrouvés dans son courrier électronique? » Il ouvrit des yeux étonnés, demanda naïvement. « Comment l'avez-vous su? » Et comme si la lumière se faisait soudain dans son esprit, il s'exclama indigné. « Je lui avais pourtant dit de les détruire au fur et à mesure. « Ainsi, monsieur Restoux, vous admettez que vous connaissiez Barbara Roussel? « Oui, dit-il piteusement, le regard fixé par terre. « Alors pourquoi avoir soutenu le contraire il y a un instant? « Comme elle a été assassinée, j'avais peur que vous ne me considériez comme le meurtrier. « Et ce n'est pas le cas? « Non? » Il avait crié le mot, et maintenant il le regardait tour à tour d'un air de défi. Il y eut un long silence, puis Boulanger reprit avec un sourire froid. « Nous ne demandons qu'à vous croire, monsieur Restoux. Toutefois, si vous le voulez bien, nous allons reprendre les choses par leur commencement. Depuis combien de temps connaissez-vous mademoiselle Roussel? » Le jeune homme se détendit un peu, mais il restait sur la défensive. 4 mois environ. Nous nous sommes rencontrés fin mai. Comment avez-vous fait sa connaissance? Dans une boîte de nuit en Belgique. J'y vais rarement car ça coûte cher, mais là, j'avais travaillé tout le mois dans un hypermarché, j'étais en fond. Elle était avec une amie, moi avec quelques copains. Je l'ai invitée à danser et puis, bref, ça a commencé comme ça. Et en boîte de nuit, vous vous comportez souvent comme ça? Dit Boulanger en insistant ironiquement sur ces derniers mots. Si vous voulez insinuer que je suis un séducteur professionnel, vous vous trompez. En raison des recherches pour ma thèse et du manque d'argent, je sors rarement, comme je viens de vous le dire. Cela, Patrick Janowski, mon meilleur ami, et d'autres pourront vous le confirmer. Et moi, je vous ajoute que c'est la première fois que je rencontre une fille de cette façon. Vous avez couché avec elle? Il rougit, faillit se mettre en colère. Se retint et finalement répondit d'une voix calme. Pas le premier soir. Elle m'a laissé son numéro de téléphone. Je l'ai rappelé le lendemain. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café. Puis les jours suivants, nous sommes allés plusieurs fois au cinéma. Enfin, une quinzaine de jours après, elle est venue ici. Il eut un geste vague vers le lit dans le coin. Et elle est revenue souvent ensuite. Encore une fois, elle se troubla. Non, elle n'a plus voulu. Elle vous a dit pourquoi? Non, elle n'a plus voulu, c'est tout. Il était de nouveau rouge comme une pivoine. Et vous avez continué à vous voir? Oui, mais moins souvent. Et puis elle est partie en vacances en Floride. À son retour, elle a encore espacé nos rencontres. Boulanger pensait à la différence de ton entre les mails qu'il avait lus, ceux enflammés du jeune homme et ceux de la jeune fille de plus en plus neutres. Bref, c'est vous qui insistiez. Il releva la tête vers Boulanger, ses yeux brillaient comme s'il allait pleurer. J'étais amoureux d'elle. Il resta pensif un instant puis ajouta. D'ailleurs, je lui ai proposé qu'on se marie quand j'aurai fini ma thèse. Quelle a été sa réaction? Elle a souri sans rien répondre. Et elle, elle était amoureuse de vous? Il haussa les épaules. Peut-être au début, mais je n'en suis pas sûr. Elle était toujours douce et de bonne humeur, mais j'avais du mal à savoir ce qu'elle pensait vraiment. Vous a-t-elle parlé d'un autre homme dans sa vie? Elle a évoqué plusieurs fois un type qui travaillait dans la publicité et dont elle partageait plus ou moins la vie. Il s'agissait plus d'allusions que de franches confidences, mais j'ai eu l'impression qu'elle ne l'estimait pas beaucoup. Personne d'autre? Il prit le temps de réfléchir. Non, je ne vois pas. Mais ça ne veut rien dire. Comme je viens de vous le signaler, elle paraissait ouverte, mais au fond, elle était très secrète. Boulanger eut un soupir. Ça n'allait pas faciliter l'enquête. Il voulut éclaircir un point. Le dernier mail de Restoux sur l'ordinateur de Barbara datait du 15 septembre. Il n'avait pas reçu de réponse. Étiez-vous encore en relation avec Mademoiselle Roussel le dimanche 30 septembre quand elle a été assassinée? J'aimerais vous dire oui, mais l'honnêteté m'oblige à vous répondre non. À son retour de Floride vers la mi-août, notre relation s'est dégradée. Elle reportait nos rendez-vous, elle répondait de façon évasive à mes mails. Oh, elle le faisait toujours avec tact, en ayant le souci de ne pas me blesser. Mais je n'étais pas dupe. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il répondit de façon instantanée. Le 14 septembre. Je m'en souviens bien car c'est l'anniversaire de ma mère, et je lui avais téléphoné pour le lui souhaiter juste avant de me rendre au Balto, le café où on devait se rencontrer, Barbara et moi. Le coup de fil s'est éternisé, je suis arrivé en retard au rendez-vous. Elle vous avait attendu? Il eut un rire désabusé. Oui, mais j'aurais presque préféré qu'on se rate, car elle m'a annoncé qu'elle allait mettre un terme à notre relation. Elle vous a dit pourquoi? Non. Elle a dit simplement que c'était préférable, qu'elle me remerciait pour ce que je lui avais apporté, qu'elle me souhaitait bonne chance pour ma vie professionnelle et personnelle, qu'elle était sûre que je réussirais les deux, etc. Comment avez-vous réagi? J'étais effondré. Nos relations se distendaient, mais je pensais que c'était passager. Moi, j'étais fou d'elle. Je ne voulais pas la perdre. Alors j'ai tenté d'argumenter, je l'ai même suppliée, peine perdue. Elle restait aimable, mais inflexible. Avez-vous essayé de la recontacter ensuite? Bien sûr. Je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. Le lendemain, je lui ai envoyé un mail auquel elle n'a pas répondu. Boulanger et le Mahut échangèrent un regard. C'était le dernier mail, en date du 15 septembre. Et puis, quelques jours après, quand j'ai lu dans la presse qu'il y allait y avoir une réception chez les Tilliers, je lui ai téléphoné. Elle a paru surprise de mon coup de fil, vu qu'on communiquait presque exclusivement par mail. Je lui ai demandé de m'envoyer une invitation, car il fallait qu'on se voie, qu'on s'explique. Elle m'a répondu qu'il n'y avait rien à expliquer et que tout était dit. Donc, elle a refusé de vous donner une invitation. Oui, elle n'a pas voulu. Elle a dit que ça ne servira à rien. Donc vous n'êtes pas allé à la réception? Non. Enfin, on y était. Le Mahut regarda attentivement le jeune homme. Il lui sembla que celui-ci avait hésité un instant avant de répondre. Boulanger avait dû avoir la même impression car il demanda d'une voix solennelle. C'est bien certain, monsieur Restoux. Vous ne nous mentez pas comme tout à l'heure. Son visage redevint écarlate. Non, je ne mens pas. D'ailleurs, je vais vous dire précisément ce que j'ai fait. Je dois vous l'avouer. Je ne pouvais me satisfaire de la réponse de Barbara. Je la trouvais frustrante et somme toute humiliante. Je me suis dit que si j'arrivais à provoquer un tête-à-tête, j'arriverais à la faire changer d'avis. Alors c'est vrai, le dimanche vers midi, je suis allé traîner aux abords de la Villa Louise. Je me suis même approché des grilles. Mais quand j'ai vu que des gens assis à une table semblaient pointer les invités, j'ai pensé que je me ferais refouler et je suis rentré chez moi. Il crut voir du scepticisme dans le regard des deux policiers car il ajouta: Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Le silence se prolongea. Puis Boulanger reprit. Une dernière question, monsieur Restoux. Pourquoi avez-vous pris dans votre adresse électronique Le prénom de Tristan. Était-ce en référence à Tristan et Iseut? Effectivement. En histoire, je suis spécialiste du Haut Moyen-Âge. Du reste, ma thèse porte sur cette période. Au moment d'établir mon adresse électronique, il m'a paru plaisant de prendre ce pseudonyme avec l'idée de retrouver peut-être mon Iseut sur le net. Sans s'en rendre compte, il avait pris le ton pontifiant qu'adoptent tant de professeurs d'université. Le Mailleux le regarda d'un air consterné. Ma parole, il est prêt pour la carrière, pensa-t-il, à moins qu'il ne finisse en prison pour meurtre. Après avoir pris les coordonnées précises de Restoux et l'avoir informé qu'il serait convoqué à la PJ pour confirmer et signer sa déposition, les deux hommes prirent congé. Le couloir d'entrée était toujours aussi sombre et malodorant. Quand ils sortirent de l'immeuble, en plein soleil, la différence de lumière les fit cligner des yeux. Comme les jours précédents, il faisait une chaleur inhabituelle pour un début d'octobre. Il n'y avait pas d'air, on annonçait des orages pour le soir. Que pensez-vous de ce type? Demanda Boulanger à Le Mailleux sur la route du retour. Vous paraît-il crédible? D'une manière générale, il me semble sincère, et je suis sûr qu'il l'est quand il dit qu'il l'aimait. Reste qu'il nous a menti au début de l'entretien en affirmant ne pas la connaître. C'est bien cela qui me chiffonne. S'il a menti une fois, il a pu le faire à un autre moment, notamment sur la question cruciale de sa présence à la réception. On peut facilement la vérifier en montrant sa photo aux invités et au serveur. S'il est entré dans la villa, on l'y aura vu. Voir, fit Boulanger avec une grimace. Les interrogatoires des invités et du personnel m'ont laissé sceptique sur leur faculté d'observation. Voyant le Mailleux dépité, il se força à sourire. C'est vous qui avez raison, Patrick. Il faut tenter le coup. Je vous laisse vous en charger. Il resta un moment silencieux, perdu dans ses pensées, puis reprit comme s'il se parlait à lui-même. Quand je regarde des dates, quelque chose m'intrigue. Si on en croit Restroux, Barbara rompt avec lui le 14. Quelques jours après, lui téléphone pour lui demander une invitation en vue d'une explication, elle refuse. Or, le 25, elle reçoit un coup de fil de quelqu'un qui s'est présenté comme Claude Gauvin. Et si c'était Restoux qui essayait de la menacer sous un pseudonyme? Le Mailleux ne répondit rien. Il avait l'habitude de ces réflexions à voix haute de son patron, qui ne nécessitent pas de réplique particulière. Il préféra revenir sur une question posée par Boulanger au jeune homme. Pourquoi lui avez-vous demandé la raison qui l'a fait adopter le pseudonyme de Tristan dans son adresse e-mail? Je voulais être sûr qu'il avait choisi ce nom en référence au Tristan de la légende. Comme le Mailleux le regardait sans comprendre, il précisa sa pensée. Je me dis qu'un spécialiste du Moyen-Âge, qui se fait appeler Tristan pour son courrier électronique, pourrait très bien avoir adopté Gauvin, un des chevaliers de la table ronde, comme pseudo sur un badge. Ce fut au tour de Le Mailleux de demeurer songeur, s'imprégnant de l'hypothèse. Vous le voyez donc dans la peau de l'assassin? Demanda-t-il enfin avec une moue dubitative qui indiquait assez son opinion à ce sujet. Je suis comme vous, Patrick. J'ai du mal à considérer ce jeune homme qui rougit si vite comme un assassin, mais si l'on envisage le meurtre comme un crime passionnel, alors son émotivité se retourne contre lui. Barbara lui annonce la fin de leur liaison, il ne l'admet pas, et tue par dépit amoureux. Nous avons là un mobile de poids. Amour, combien de crimes n'a-t-on pas commis en ton nom? Dit le Mailleux d'une voix sentencieuse. En tout cas, vous, Patrick, ça ne vous arrivera pas, reprit Boulanger en riant. Vous aimez trop les femmes pour les tuer. Et en parfait bourreau des cœurs, c'est vous qui les lâchez en le premier. Au fait, quel nom avez-vous pris pour votre courrier électronique? Ce ne serait pas Casanova? Le Mailleux rit jaune. Il avait pris le pseudonyme de Roméo.